M'invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu dans Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Alors, on n'ira pas tout le passage parce qu'on a encore un autre passage à lire après. Mais simplement pour vous mettre dans le contexte, eh bien, c'est Agar qui est seule, qui est effrayée et convaincue que Dieu est partout sauf près d'elle. Pourtant, Dieu savait exactement où elle en était dans l'épreuve qu'elle traversait. Dieu voyait chacun de ses mouvements qu'elle faisait et il est venu vers elle pour lui offrir du réconfort et de l'espoir. Et ce matin, le Seigneur, il sait ce que vous vivez. Et si vous avez besoin aussi de réconfort comme Agar, de réconfort et d'espoir, eh bien, le Seigneur est toujours prêt à s'approcher de vous pour vous offrir ces deux choses. Il vous est peut-être arrivé de vivre certaines difficultés où vous vous êtes senti très seul et que vous vous êtes demandé un jour dans le passé où était Dieu. Je ne peux pas vous définir ses plans et expliquer sa personne, mais je peux vous dire qu'il voit parfaitement tout ce que vous vivez. Et lorsque Dieu est apparu au milieu du cauchemar d'Agar, elle était émerveillée d'apprendre que le Dieu Tout-Puissant avait les yeux fixés sur elle. Est-ce que vous pouvez réaliser ça en 2017, que Dieu a les yeux fixés sur vous? Moi, je vous regarde, c'est rien ça. Mais celui qui nous a créés a les yeux fixés sur vous ce matin. Extraordinaire, et on oublie souvent ça. Dieu a les yeux fixés, porte son regard sur chacun de vous ce matin. C'est extraordinaire. Elle était tellement étonnée que Dieu se souciait d'elle qu'elle a dit de lui au verset 14 et 15, pour ceux qui ont leur Bible. « Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. » Et c'est un nom de Dieu, ça, le Dieu qui me voit. Et dans le psalmiste David, qui avait peut-être un homme de prière, a donné un autre nom aussi à Dieu. Il a dit « Celui qui répond aux prières ». Donc, c'est des noms que Dieu porte et qui nous encourage à pouvoir intercéder auprès de lui pour avoir des réponses lui confier nos problèmes ou lui partager nos soucis. Mais aussi ici, le Dieu qui me voit, peu importe où vous êtes, Dieu vous voit, frères et sœurs, et son œil est porté sur vous ce matin. Voilà pourquoi elle a appelé le puits de l'Aïr, oui, le puits du vivant qui me voit. Chers amis, le même Dieu qui a vu la détresse d'Agar a ses yeux fixés sur vous ce matin. Il sait où vous en êtes et il sait exactement ce que vous traversez. Et j'aimerais développer ce passage en fonction de la phrase, ce message, pardon, en fonction de la phrase que nous retrouvons au verset 13 qui dit « Le Dieu qui me voit ». J'aimerais parler de l'omniscience de Dieu ce matin. C'est un gros mot théologique, mais on n'est pas ici pour faire de la haute voltige, on n'est pas ici pour faire de la théologie, on est ici pour ramener ça au niveau des pâquerettes et être capable de pouvoir comprendre ensemble ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole, puisque si des enfants sont capables de comprendre la parole de Dieu, à combien plus forte raison, nous qui avons l'Esprit de Dieu, eh bien, si nous lui appartenons, nous qui avons l'Esprit de Dieu, eh bien, nous sommes en mesure de comprendre ce que l'Esprit a à dire à son Église ce matin. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons les yeux fermés maintenant, Seigneur, parce que nous intercédons auprès de ton trône de grâce. Mais Seigneur, nous savons que ton œil est sur chacun de nous. Nous savons que tu portes ton regard sur chacun de nous, que tu veux nous parler, parce que tu connais nos besoins. Tu connais la situation de notre vie spirituelle. Tu connais la situation de notre relation avec toi. Et ce matin, Seigneur, nous avons la certitude que parce que ton regard est porté sur chacun de nous, tu veux t'adresser à chacun de nous. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses, Seigneur, utiliser ma bouche pour parler à mes frères et mes sœurs, parler à ceux qui ne te connaissent pas encore afin qu'ils soient convaincus de péché, de justice et de jugement et qu'ils puissent se tourner vers toi afin de recevoir cette paix et cette joie qui ne vient pas des hommes mais qui vient de toi, qui vient de là-haut. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'Ancien Testament qui est là à titre, qui nous sert d'exemple pour nous rappeler que ceux de l'Ancien Testament sont de la même race que nous, que nous sommes sujets à commettre les mêmes bêtises qu'eux, à tomber dans l'incrédulité comme certains l'ont fait. Mais surtout à nous rappeler, Seigneur, que celui qui accomplissait des miracles extraordinaires dans l'Ancien Testament est le même aujourd'hui qui voudrait bien se plaire à accomplir de grands miracles dans la vie de ses enfants, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent contempler ta gloire et louer ton beau nom. Et c'est en Jésus que je te prie, Père. Amen. J'aimerais que vous soyez convaincus que non seulement Dieu vous voit,
et que ce n'est pas de façon désintéressée qu'il porte son regard sur vous. Il vous voit et il se soucie de vous. Et ça, je trouve ça encourageant, moi. Il y en a des fois, il te fixe, il te regarde, tu te demandes, tu vas le voir, tu dis, pourquoi tu me regardes? Ben, j'ai pas d'autre chose à regarder. Mais c'est pas le cas de Dieu, hein. Dieu nous regarde parce qu'il se soucie de nous. Et Dieu, il vise notre bien-être spirituel. Et si notre bien-être spirituel, eh bien, est dans la volonté de Dieu, tout le reste va en découler. Je veux que vous ayez la conviction dans votre cœur que vous êtes non seulement aussi précieux pour lui que la prunelle de ses yeux. Écoutez, là, c'est pas le pasteur qui le dit. Psaume 17, 8. Vous êtes aussi précieux pour Dieu que la prunelle de ses yeux. C'est incroyable. C'est incroyable quand vous pensez à ça. Mais que celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil, nous dit aussi Zacharie, chapitre 2, verset 8. Frères et sœurs, on n'est pas n'importe qui pour le Seigneur. On est quelque chose d'énormément précieux à ses yeux. Et permettez-moi de partager avec vous certains détails concernant son omniscience, alors que je vais parler du Dieu ce matin qui voit. Alors, tu es le Dieu qui me voit, verset 13. Cela signifie que Dieu est celui qui possède une connaissance totale de toutes choses. Lorsque nous disons que Dieu est omniscient, et ça c'est important, hein, c'est un mot théologique, mais c'est important que vous ayez la conviction dans votre cœur que Dieu est omniscient, que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout, que Dieu voit tout, parce que vous risquez un jour de douter qu'il puisse ne pas savoir exactement ce qui va se passer dans 2000 ans, si la Terre existe encore, parce qu'il se fait prendre par surprise par le plan des hommes. Dieu sait tout d'avance, avant même que l'univers apparaisse, avant même que la lumière apparaisse, alors que c'était ténèbres partout, avant même que le monde apparaisse, Dieu savait à quel moment il fondrait la terre, et il sait à quel moment il va arrêter, il va changer tout ça, il connaît toutes choses, et peu importe ce que les grands, on en a parlé pendant les réunions de prière cette semaine, peu importe ce que les grands de ce monde sont en train de décider, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train d'accomplir parfaitement le plan de Dieu. Parfaitement. Dieu n'a pas pris de détour parce qu'il y a un président ou parce qu'il y a un premier ministre ou parce qu'il y a un autre qui est en train de dire « Mais moi, je vais faire ça comme ça. » Dieu n'a pas pris de cours. Ce que les dirigeants de ce monde ne savent pas, ils sont en train d'accomplir parfaitement le plan de Dieu. Nous, on peut se faire prendre de cours par certaines réactions de certaines personnes, mais Dieu n'est jamais pris de cours puisqu'il sait toutes choses d'avance. Toutes choses d'avance. Amen. Alors, on va regarder, on peut voir son omniscience dans quatre domaines bien précis, dans sa personne. Hein. Les Grecs appelaient Dieu Théos. Ce mot vient de la racine d'un mot qui signifie « celui qui voit ». Et le concept même de la divinité nous amène à reconnaître qu'il a la capacité de garder un œil sur toute sa création. Les anciens le voyaient non seulement comme étant un être qui pouvait voir toute sa création d'un seul coup d'œil, mais ils le voyaient aussi comme étant celui qui connaît parfaitement chaque petit détail qui compose l'univers. Je vais vous donner juste un exemple, comment le regard de Dieu est perçant, comment il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. Ici, ça paraît propre hein, ce matin. Mais si on éclairait, là, on mettait un beau spot, on verrait des millions, des milliards de grains de poussière qui se promènent. Mais chaque grain de poussière, que, non seulement qu'il y a dans ce lieu, mais dans tout l'univers, n'échappe pas à l'œil de Dieu. Essayez de saisir ça, frères et sœurs. Il n'y a rien dans toute la création de Dieu qui échappe à son regard en même temps. Quel Dieu on sert, frères et sœurs? Et c'est ce Dieu qu'on sert, c'est notre Père. C'est extraordinaire, non? Moi, si je veux voir en arrière, là, je suis obligé de me tourner. Mais Dieu voit tout en même temps. Il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. C'est ça l'omniscience de Dieu. Rien n'échappe au regard de Dieu. Des fois, je parle avec quelqu'un, et là, il y a quelqu'un qui parle à côté de moi, j'écoute, tu pourrais-tu te taire parce que j'ai de la difficulté à le comprendre. Dieu entend les paroles de tout le monde en même temps, dans tout l'univers. C'est ça l'omniscience de Dieu. C'est extraordinaire quand vous pensez à ça. Moi, je suis un visuel, s'il y a quelqu'un qui me parle, puis un autre me parle, c'est fini, hein. Moi, je suis perdu, quoi, hein? Je suis un visuel en plus. J'aurais eu besoin de quatre oreilles pour tout saisir ce que la personne me dit. Dieu m'en a donné deux, mais un visuel, c'est quelqu'un qui est capable de lire, c'est quelqu'un qui va passer son temps dans les livres. Mais moi, je suis incapable d'écouter un message sur une cassette. Je suis pas auditif, je suis visuel. Après avoir écouté la cassette, vous pouvez me dire ce qui s'est dit. Je peux pas. Si vous me dites de raconter ce qui s'est dit, je suis incapable de vous le dire. Mais imaginez-vous, toutes les paroles qui sont prononcées sur la terre présentement et dans le ciel parmi les saints anges, Dieu, il n'y a aucune parole qui échappe à l'oreille de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Et frères et sœurs, c'est ce Dieu qui a accepté de mourir pour nous sur la croix à travers Jésus-Christ. C'est extraordinaire. L'omniscience de Dieu. Qu'est-ce qu'on est, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'un homme pour que Dieu se soucie de lui? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis pour que Dieu vous aime, pour que Dieu m'aime, frères et sœurs? C'est incroyable quand on pense à ça. C'est incroyable. L'omniscience de Dieu. Celui qui connaît parfaitement chaque petit détail qui compose l'univers, lorsque nous invoquons son nom, nous sommes en train d'invoquer celui qui s'appelle celui qui voit. On peut voir son omniscience dans un deuxième domaine bien précis, dans sa présence. Dieu connaît toutes choses, non seulement à cause de ce qu'il est, mais aussi à cause de ce qu'il sait. Le psalmiste nous rappelle, tournez dans, j'étais content d'entendre ça tantôt, je me suis dit, oh, on est dans la même lignée ce matin, psaume 139. Quand Michael a lu, et en fait, il a lu deux passages, deux versets que je ne lirai pas, mais de 1 à 18, on va regarder. Regardez comment le psalmiste, comment le psalmiste, il avait une relation incroyable avec son Dieu, et comment il connaissait son Dieu, comme il pouvait connaître ses soldats, comme il pouvait connaître les gens qui étaient autour de lui, quand il était roi d'Israël. Regardez ses paroles, frères et sœurs. C'est pas quelqu'un qui a appris une prière par cœur, c'est quelqu'un qui a vécu, qui vit ce qu'il a écrit. Et c'est extraordinaire. Regardez. Verset 1. On va aller jusqu'à 18. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Alors, si on devait dire toute la même chose ensemble, Seigneur, tu sais quand on s'assoit et tu sais quand on se lève. Tu sais quand le monde se lève. Tu sais quand le monde s'assit. C'est pour tout le monde. C'est incroyable, frères et sœurs. Tu sais quand je me lève, quand je m'assis. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu es au courant de tout ce que je fais. Je n'ai pas encore prononcé un seul mot. Et ça, c'est fort, hein? Et tu sais déjà ce que je vais dire. Et c'est pour tous les êtres humains, frères et sœurs. Il y a des gens... Tu peux même te taire la bouche puis simplement essayer de faire comprendre ta pensée. Dieu lit dans ta pensée. Dieu sait déjà avant que tu ouvres la bouche que tu vas dire. C'est incroyable quand on pense à ça. Regardez ce qu'il dit ici. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. On pourrait aller, où pourrais-je aller loin de toi et où fuirais-je loin de ta présence? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, me voilà. Si je m'envole jusqu'au soleil levant ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là ta main me saisit. Ta main droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi l'obscurité devient lumière, et la nuit claire comme le jour, ténèbres ou lumière, pour toi c'est pareil. C'est toi qui as créé ma personnalité, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Pas qui a tissé mon caractère, parce qu'on reçoit le caractère du premier Adam. C'est ce à quoi Dieu veut s'appliquer quand on passe de la mort à la vie, quand on est de nouveau, c'est transformer notre caractère, nous amener à ressembler au caractère de Jésus-Christ, manifester le caractère de Jésus-Christ. Et en bon français, qu'est-ce que c'est le caractère du premier Adam? Ce sont les fruits de la chair qu'on produit, que Paul décrit dans ses épîtres. Et qu'est-ce que c'est de manifester le caractère de Jésus-Christ? C'est ça le miracle de la nouvelle naissance, c'est qu'on manifeste les fruits de l'esprit que Paul décrit dans ses épîtres. Il continue ici. « Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. » Et ceux qui ont assisté à l'étude biblique il y a quelques semaines, et on a vu comment le corps humain était composé, c'est à renverser. Dans une seule cellule, vous avez tout le code génétique de la personne qui va venir au monde 9 mois après. Dans une seule cellule, c'est incroyable, hein? Et alors que les hommes décident à quel moment un être qui est dans le ventre de sa mère, à quel moment il est un être vivant ou il est rien du tout, quoi. Une boule qui bouge. Hein. La parole nous dit, on a vu, et c'était scientifique, c'est vrai, mais extraordinaire, dans une seule cellule, le code génétique est inclus au complet. C'est incroyable comment l'être humain... Écoutez, c'est pas le fruit du hasard. Hein. Ça prend quelqu'un de plus intelligent pour créer une merveille comme nous sommes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et vous parlez aux médecins. Hein. Allez voir les médecins. Lancez-leur le défi. Hein. Pourquoi je vieillis? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils vont vous dire, bien, c'est normal. Oui, mais vous nous dites, la science nous dit qu'on a tout pour se régénérer, pour rester jeune. Mais la Bible nous dit, c'est à cause du péché Parce que dans cette cellule aussi, il y a le gène du péché. Il y a le gène du péché. On vient tous au monde avec le gène du péché qui habite en nous. Et tôt ou tard, on manifeste qu'on ressemble vraiment au premier Adam. Amen. Et Dieu, ce qui fait le miracle de la nouvelle naissance, c'est qu'il nous transforme et il fait de nous celui, le dernier Adam, comme le dernier Adam qui est venu. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'avait point de secret pour toi lorsque tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans pourtant qu'aucune d'elles ait commencé. C'est extraordinaire, hein? Hey, ça ne vous donne pas de l'importance, ça? Au lieu de vous voir comme étant un objet, au lieu de vous voir comme étant le fruit d'une évolution incroyable, hein, ce qu'on entend, que vous êtes le fruit d'une création, que vous êtes le fruit de quelqu'un qui non seulement vous a mis sur la terre pour que vous vous amusiez, pour que vous perdiez votre temps, mais que le Créateur de toutes choses veut entrer en relation avec vous parce qu'il a choisi que nous passions l'éternité avec lui. Et c'est un choix personnel pour chacun de nous. C'est incroyable, il dit. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'avait point de secret pour toi lorsque tu m'as façonné en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Quel grand Dieu, frères et sœurs. Et ce Dieu-là, il est de notre côté. Frères et sœurs, ce Dieu-là, c'est notre Père. Ce Dieu-là, c'est notre Roi. Et on va régner avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, non? Gloire à Dieu. Oui. Dieu ne force jamais ses yeux pour nous voir parce qu'il est toujours avec nous. Voyant tout ce que nous faisons, les yeux de l'Éternel sont partout. Et le pire, c'est qu'il observe aussi bien les bons que les méchants. Les deux. Dieu est avec nous, il est autour de nous, il est devant nous, il est sous nous, au-dessous de vous et en vous. Et il serait plus facile de vous défaire de votre peau que de vous défaire de lui. Il remplit tout l'univers de sa présence. Alors, s'il remplit tout l'univers de sa présence, il doit par conséquent tout savoir. Nous pouvons voir son omniscience dans un troisième domaine bien précis, dans sa puissance. Dieu connaît toutes choses, non pas seulement à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il sait, mais aussi à cause de ce qu'il fait. Notre Dieu n'est pas déconnecté de sa création. Il voit le moineau qui tombe à terre et il connaît exactement le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Avez-vous déjà pris du temps pour compter le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête? Bon, Léon, il rit. C'est vrai que Léon, on prend moins de temps à compter ce qu'il reste sur la tête, mais avez-vous pensé à ça? Vous seriez surpris si vous pouviez compter tous vos cheveux que vous avez sur la tête, le temps que ça vous prendrait pour les compter, parce que c'est incroyable le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Dieu connaît le nombre de cheveux de tous les êtres humains qui vivent sur la terre présentement. Il les connaît tous. Et il se rappelle du nombre de cheveux que tous ceux qui sont venus avant nous avaient quand ils ont vécu sur la terre. Et il connaît le nombre de cheveux de tous ceux qui vont venir après nous, qui vont vivre sur la terre. C'est extraordinaire, quoi. Incroyable! Quel Dieu! Quel puissant Dieu! Peu importe où vous allez, peu importe ce que vous regardez, vous pouvez voir la main de Dieu être activement impliquée dans sa création. Le ciel, le psaume 19, verset 1 à 3, le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Il contrôle tout dans ce monde. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'un Dieu qui remplit toutes choses et contrôle toutes choses doit donc tout savoir. Nous pouvons voir son omniscience dans un quatrième domaine bien précis, dans ce qu'il a planifié. Dieu connaît toutes choses parce qu'il est Dieu, parce qu'il sait tout, parce qu'il est partout et parce qu'il contrôle toutes choses. Il est également clair qu'il sait ce qui arrivera avant même que cela arrive. Il dit à Isaïe, « J'ai déjà annoncé dès le commencement ce que devait arriver et longtemps à l'avance, ce qui n'était pas encore arrivé. Ce que j'ai dit se réalisera et tout ce que je veux, je le fais. » Frères et sœurs, tout ce que Dieu a planifié, peu importe ce que l'homme est en train de mettre, peu importe les plans de l'homme, c'est ce que Dieu a planifié qui va arriver. Alors, frères et sœurs, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est crédible. Parce que dans ça, vous avez des milliers de prophéties Et dans ces milliers de prophéties, elles se sont toutes réalisées. Et pour être capable de réaliser ces choses-là, ça prenait quelqu'un qui nous raconte qu'il va arriver quelque chose dans 2000 ans, puis dans deux, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a déjà été dans ce temps-là. Et Dieu voyage en éternité. Essayez de comprendre simplement que Dieu voyage en éternité. On n'est pas capable de mesurer ça. Essayez simplement de penser que Dieu est, pour l'instant, est avant, en 2000 avant Jésus-Christ, 2000 après Jésus-Christ, et si ça doit continuer encore 5000 après, il est partout en même temps. Il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. On ne peut pas imaginer ça en tant qu'être humain. Nous, on ne peut pas être à deux places en même temps. Mes frères et sœurs, on ne parle pas d'un être humain, on parle de Dieu, quoi. On parle de Dieu. Et c'est important qu'on élève Dieu, parce qu'aujourd'hui, ce que l'être humain n'est pas capable de faire, bien, pour lui, Dieu n'est pas capable de le faire. Bien, c'est très, très mal connaître Dieu. Dieu, si on est capable de faire des choses, c'est parce que c'est Dieu qui nous a donné la capacité. Amen. Ça, c'est vraiment important. Comment Dieu sait-il ce qui arrivera avant même que cela arrive? Éphésiens chapitre 1, verset 11, c'est parce qu'il l'a déjà planifié. Rien ne peut arriver dans ce monde qui ne fait pas partie du plan parfait que Dieu a prévu depuis la fondation du monde. Il est possible que cela ne vous apporte rien de plus, mais cela me bénit, moi, frères et sœurs, de me rassurer et me rassure de savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, un Dieu qui a planifié toutes choses est sûrement capable de connaître toutes choses. Le fait que Dieu me voit, le fait que le Dieu que je sers soit omniscient, qu'il voit toutes choses en tout temps, cela signifie, frères et sœurs, et ça c'est important, que ce Dieu me connaît personnellement. C'est pas qu'il voit une masse, mais frères et sœurs, il connaît tous vos noms. La Bible nous dit qu'il a donné un nom à chaque étoile qu'il y a dans le ciel. Il connaît le nom de chaque étoile. Et c'est extraordinaire. Dieu ne nous doit rien. Et Dieu a décidé de vivre une relation personnelle et intime avec chacun de nous. C'est extraordinaire, encore une fois. Il est écrit au verset 13, dans Genèse, « Celui qui me voit, Dieu vous voit comme s'il n'y avait personne d'autre dans l'univers. Est-ce que vous pouvez saisir cette vérité? » C'est pas... Il vous a flashé là, en passant. Dieu vous voit comme si vous étiez seul dans tout l'univers. Si je veux me concentrer sur chacun de vous, je suis obligé de vous regarder un à la fois, alors que Dieu peut voir toutes choses en même temps et continuer à porter son attention sur chacun de nous. Quel grand Dieu nous avons, frères et sœurs. Lorsque Jésus parle avec la femme au puits dans Jean chapitre 4, celle qui avait eu cinq maris et qui vivait avec un homme qui était poétien. Il n'y avait plus personne d'autre pour Jésus qui existait dans le monde. Il était concentré sur elle et sur sa situation. Et quand on se présente devant le trône de la grâce de Dieu en prière pour lui partager nos besoins, ou pour lui partager des choses avec lesquelles on est triste, qui nous a attristés, Dieu, même s'il n'y a rien qui lui échappe dans l'univers, Dieu prend plaisir à prendre un temps avec sa créature. C'est pas quelqu'un qui dit ouais, vas-y, continue, je fais ça. Non, il prend un temps avec chacun de nous. C'est une belle image. C'est une belle image, frères et sœurs. C'est une belle image. Vous êtes l'objet particulier de son attention au moment où je vous parle. Le fait que Dieu me voit, le fait que le Dieu que je sers soit omniscient, qu'il voit toutes choses en même temps, signifie deuxièmement qu'il me connaît parfaitement. Non seulement il me connaît personnellement, mais il me connaît parfaitement. Agar va lui dire, « Tu es le Dieu qui me voit. » Quand Dieu vous voit, il ne voit pas seulement les vêtements que vous portez, ni l'endroit où vous allez, ni l'expression qui se trouve sur votre visage. Il vous voit entièrement tel que vous êtes, intérieurement et extérieurement en même temps. Vous pouvez avoir un sourire devant votre visage et vous pouvez être triste à mourir à l'intérieur dans votre cœur. On ne peut pas cacher ça à Dieu. Vous pouvez le cacher au pasteur, vous pouvez le cacher à vos proches, mais vous ne pouvez pas le cacher à Dieu. Il fait trop chaud, hein? J'en vois qui servent de choses comme éventail. Il connaît chacune de nos pensées avant même qu'elles se forment dans notre esprit. Il dit que je n'ai pas encore prononcé un mot. Hein? Le psalmiste dit au psaume 139, verset 4, que je n'ai pas encore prononcé un seul mot, qu'il sait déjà tout ce que je vais dire. Lorsque vous vous déplacez, aucun de vos pas ne lui échappe. Le fait que Dieu me voit, le fait que le Dieu que je sers, soit omniscient, qu'il voit toutes choses en même temps, signifie troisièmement qu'il vous connaît depuis toujours. Agar a dit, « Tu es le Dieu qui me voit, et le verbe voir ici est au temps présent. Dieu voit et il voit toujours. » Pensez comment nous faisons attention lorsque nous savons que les regards sont braqués sur nous et que certaines personnes nous regardent. Nous pesons chaque mot qui va sortir de notre bouche et nous faisons attention à notre façon de marcher et à notre manière d'agir. Cependant, lorsque personne ne nous regarde, nous avons tendance à laisser tomber la garde, mais permettez-moi de vous rappeler que lorsque tout le monde a quitté les lieux, que la porte s'est refermée, que l'obscurité nous a enveloppés et que nous pensons être seuls, les yeux du Dieu Tout-Puissant sont toujours sur vous et toujours sur moi. Pour Dieu, l'obscurité devient lumière, dit le psalmiste, et la nuit claire comme le jour. Ténèbres et lumière, pour lui, c'est pareil. Peu importe où quelqu'un se cache, Dieu le voit. Et le fait que Dieu me voit, le fait que le Dieu que je sers soit omniscient, qu'il voit toutes choses en même temps, cela signifie quatrièmement qu'il vous connaît de manière absolue. Tu es le Dieu qui me voit, dit Agar. Et encore une fois, le verbe voir ici implique une vision absolue. Il voit tout, autant ce qui est du domaine public que du domaine privé. Vos parents, votre conjoint et vos amis, les plus proches, peuvent prétendre vous connaître intimement, mais ils ne vous connaîtront jamais comme Dieu peut vous connaître. Vous n'avez pas de secret pour Dieu, frères et sœurs. Pas de secret. Vous pouvez penser bien vous connaître, mais vous ne connaîtrez jamais votre propre cœur comme Dieu peut le connaître. Le cœur d'un homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu le connaît parfaitement, notre cœur, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé un sauveur, pour changer notre cœur. Changer notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair pour qu'on puisse avoir compassion pour nos semblables, pour qu'on puisse aimer nos semblables comme lui nous a aimés. Amen. Le Seigneur regarde jusqu'au fond de mon cœur et il sait tout de moi, dit le psalmiste. Il sait si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, il connaît mes intentions. Il remarque si je suis dehors ou chez moi et il est au courant de tout ce que je fais. Frères et sœurs, lorsque nous pensons que Dieu sait tout, voit tout et entend tout, nous voyons souvent que le côté négatif, « Ah, mais là, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, il faut que je fasse attention à ce que je vais faire, il faut que je fasse attention à ce que je vais penser. Hein. » Ouais. Mais nous pensons à la façon dont Dieu voit tout ce que nous voyons, disons ou faisons, et le fait de voir ainsi les choses, ça nous dérange. En réalité, frères et sœurs, et ça c'est le bon côté, la totale connaissance de Dieu est l'une des vérités les plus réconfortantes qui soient, parce que, premièrement, il voit celui qui le supplie. Vous imaginez, si on vient en prière, on est dans la douleur, on supplie Dieu, puis il ne voit pas, il n'entend pas. L'omniscience de Dieu, ça inclut aussi ça. Quand on a de la tristesse, quand on vient devant le trône de la grâce et qu'on supplie Dieu d'avoir pitié de nous, Dieu, frères et sœurs, entend. Et on voit Agar ici qui s'enfuit dans le désert. Elle vit des moments extrêmement difficiles. Pourtant, au milieu de cette terrible situation dans laquelle elle se trouve, elle a une conversation avec Dieu, et ça, on appelle ça prier. Elle a une conversation avec Dieu. Je suis content que Dieu m'entende lorsque je prie, n'est-ce pas? N'a-t-il pas dit à Isaïe? Regardez, Isaïe, chapitre 65, verset 24. « Moi, je leur répondrai avant même qu'ils m'appellent. » Moi, je leur répondrai avant même qu'ils m'appellent. Ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. N'a-t-il pas dit à Jérémie, « Appelle-moi, je te répondrai, je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. » Est-ce que Jésus n'a pas dit, « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre la porte à celui qui frappe. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? On a vu au cours de la semaine une vingtaine de raisons pourquoi on ne reçoit pas quand on demande. Et finalement, c'est jamais de la faute de Dieu. Le problème, il est de notre côté. Et on a besoin de s'examiner parce que Dieu prend plaisir à répondre aux prières de ses enfants. Sinon, ces versets-là, vous pouvez faire un X dessus. Ces versets-là ne font pas partie de la parole. Amen. Il arrive que lorsque je prie, je ne peux pas mettre des mots sur ce que je pense. Qu'importe, le Dieu qui voit toutes choses, voit même mes pensées, lit dans mes pensées, et il sait ce que je ne peux pas exprimer. Alors, il entend. Il entend. Il entend la prière où il ne sort aucun son. Il interprète le message de vos larmes. Et je n'ai pas vraiment le temps ce matin, mais le psalmiste a dit que quand on prie puis qu'on est tellement... On est tellement en larmes et qu'il n'y a rien qui sort. Il est écrit que Dieu prend son outre et recueille recueille finalement les paroles qui se trouvaient dans nos larmes et qu'on n'a pas pu exprimer. C'est extraordinaire, ça. C'est quelle belle image, quoi. Quelle belle image. Quelle belle image. Dieu regarde au cœur. Il sait pourquoi on s'est avancé. Il sait pourquoi on a voulu prier, qu'on a voulu prendre un temps avec lui. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Hein? Ouais. Tu es là, tu pleures, il n'y a rien qui sort, tu as des moutons dans la gorge, il n'y a rien qui est capable de sortir, et tu pleures. Et Dieu recueille ce que tu aurais voulu dire. Il les recueille parce qu'elles se trouvent dans tes larmes. Il les recueille, il les tient, il les garde dans son outre. Quelle belle image! Quelle belle image, frères et sœurs! Eh bien, le psalmiste qui a écrit ça, il avait un temps de prière, il devait prendre un temps de prière régulièrement avec son Dieu pour être capable de nous enseigner cette vérité. Quand vous priez, quand vous pleurez, parce que vous êtes incapable, aucun son qui sort de votre bouche, Dieu lit dans vos larmes ce que vous vouliez exprimer et il recueille vos larmes. Il n'y a rien qui est perdu pour Dieu. Ce n'est pas une bénédiction de savoir ça, c'est incroyable. Hein? Ouais. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, je pleurais trop. Mon père disait, arrête de pleurer. Le Seigneur, il dit, non, rien de perdu pour moi. Je te comprends. Tu n'es pas capable d'exprimer rien parce que tu es pris par la douleur. Tu es pris par la situation dans laquelle tu vis. Mais tu n'as pas perdu ton temps à venir me voir et à pleurer parce que je recueille tes larmes dans mon outre. Quelle belle image de notre Dieu. Lorsque nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit Saint lui-même prie Dieu pour nous avec des gémissements qu'on ne peut pas exprimer par des paroles. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie pour ceux qui appartiennent à Dieu comme Dieu le désire. Lorsque nous disons que la totale connaissance de Dieu est l'une des vérités les plus réconfortantes qui soit, c'est parce que, deuxièmement, non seulement il voit celui qui supplie, mais il voit aussi celui qui souffre. Dans ce verset, Agar souffre terriblement, frères et sœurs. Elle a été rejetée et maltraitée par sa maîtresse. Et frères et sœurs, nulle part il est écrit que Agar priait Dieu pour qu'il vienne la rencontrer. Dieu est venu la rencontrer avant même qu'elle prie, frères et sœurs. Et quand on est incapable de prier pour quoi que ce soit, parce qu'on est envahi par la situation, Dieu va placer des gens sur notre chemin qui vont nous rappeler que notre secours se trouve en Dieu. Se trouve en Dieu pour qu'on puisse se rappeler combien il y a une puissance dans la prière, frères et sœurs. Elle est toute seule et elle fuit, son cœur est brisé, et elle ne sait plus quoi faire. Mais voilà, dans sa souffrance, elle rencontre le Dieu qui voit. Elle n'a pas dit « le Dieu que je vois, le Dieu qui voit ». Dieu est partout, frères et sœurs, et souvent on ne le voit pas. On ne la voit pas et pourtant Jésus nous a fait une prière. Sachez-le, je serai tous les jours avec vous et ce jusqu'à la fin du monde. Hey, on ne peut pas tout voir et pourtant il y a tout autour de nous des gens qui souffrent profondément. Si c'est votre cas ce matin, prenez courage. Il est possible que les gens autour de vous ne voient pas et ne comprennent pas, mais il y a un Dieu dans le ciel qui connaît bien le chemin sur lequel vous marchez, dit Job. Il sait où vous en êtes aujourd'hui et il sait ce qui vous attend au prochain virage sur le chemin sur lequel vous marchez. Puisqu'il sait tout, il est capable de vous aider comme aucun autre. Il connaît votre douleur et il peut compatir. Et frères et sœurs, c'est ce qui fait la force de Dieu, la compassion de Dieu. La compassion de Dieu, frères et sœurs. Quel Dieu on sert? La compassion de Dieu, ça veut dire que s'il y en a un qui souffre et qu'il y en a un autre qui souffre, il n'y a pas plus de compassion pour un que pour l'autre. Dieu nous aime tous de façon égale. C'est extraordinaire, ça aussi. Et Dieu connaît votre besoin ce matin. Et Dieu va répondre à votre besoin. Il sait où vous en êtes aujourd'hui. Il sait ce qui vous attend. Alors venez à lui. Vous avez un Dieu qui est là pour compatir. Pas un Dieu qui est là pour vous assommer puis vous culpabiliser. Un Dieu qui est là pour dire, je tends l'oreille. Parle. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parce que j'ai la réponse à tes soucis. J'ai la réponse à tes besoins. N'ayez pas peur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car il veut prendre soin de vous. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos... Amen. Amen. Oui. Hey. J'ai rencontré une dame cette semaine. Qui disait tout des choses apocalyptiques et ainsi de suite. Et finalement, dans sa pensée, en fait, c'était une, vraiment une personne là, qui était vraiment prête à se faire, sans le savoir, hein, prêts à se faire accrocher par une secte. Hein. Vous savez, les sectes, souvent, ça ne parle que d'Apocalypse. La fin du monde, c'est pour demain matin. Hein. Ouais. Et ce n'était que des mauvaises nouvelles. Au point là où elle est, je l'écoutais, puis elle essayait de trouver des gens pour se joindre à son groupe pour pouvoir sauver le monde. Sauver le monde de ce que le diable est en train de préparer. Je l'ai écouté pendant assez longtemps, et je lui ai dit, écoute, tout ce que tu lis sur Internet et tout ça, ce ne sont que de mauvaises nouvelles. J'ai dit, maintenant, écoute, commence à lire la bonne nouvelle. Commence à lire la bonne nouvelle. Et j'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. J'ai commencé à lui dire ce que je vous ai dit tantôt au tout début. Peu importe ce que les hommes planifient, Dieu aura toujours le dernier mot. Et ça a commencé à l'encourager. Et son visage a changé. Et dans la dernière demi-heure qu'on était ensemble, là, j'ai vu une autre personne. Je ne vous dis pas qu'elle va retomber, qu'elle ne retombera pas, mais on s'est donné d'autres rendez-vous. Hein, j'étais avec une autre dame, on s'est donné d'autres rendez-vous. Et c'est certain que, écoutez, il y a un ménage à faire dans sa vie, et peut-être que ça va prendre plusieurs fois pour l'encourager, la ramener aux Écritures. Mais quelle transformation, simplement, dans cette dernière demeure, ça m'a encouragé. Je me suis dit, ben, Seigneur, tu étais présent avec nous. On n'a pas perdu notre temps, Seigneur. Touche le cœur de cette femme-là afin qu'elle puisse, rencontrer la seule personne qui sauve, la seule personne qui change les vies. Frères et sœurs, Dieu est capable d'agir dans votre situation pour faire en sorte que cela aboutisse à la meilleure solution possible. La souffrance légère et momentanée, dit Paul, que nous éprouvons, nous prépare une gloire abondante et éternelle, beaucoup plus importante que cette souffrance. Ce jour-là, vous n'en finirez pas de glorifier et de louer tout votre cœur. Frères et sœurs, bon, je viens de dire, parce que moi, je ne suis pas trop... Hier, je suis allé essayer, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, je fais attention, mes enfants sont là. Je suis allé essayer une combinaison de plongée. Hein. Je me suis regardé dans le miroir, mon fils il a le même gabarit que moi, hein. Mais lui, il rentrait mieux dans la sienne que dans la mienne. Hein. Là, je me suis aperçu que ça commence à tomber, hein, un peu partout, hein. J'ai 68 ans et t'as beau te gonfler, mais à un moment donné, quand t'es dans ton combi, tu te regardes ton fils, tu dis, c'est bizarre, ça n'a pas la même... c'est un autre style que t'as pris ou quoi? Ouais. Frères et sœurs, quand Dieu va recommencer toute nouvelle chose, ce qui tombe, là, ça va finir de tomber parce que vous allez recevoir un nouveau corps, un corps glorifié, où le signalement du... où finalement le processus de vieillissement c'est terminé. Le processus du vieillissement, la Bible nous en parle dès Genèse, c'est à cause du péché de l'homme, c'est ce gène qui est en nous, qui est en train de nous détruire. Mais gloire à Dieu, Dieu a remporté la victoire sur le péché à la croix. Il a remporté la victoire sur la puissance que la mort exerçait dans nos vies. Voilà pourquoi on doit croire dans la résurrection des morts. Moi, je crois dans la résurrection des morts, sinon, frères et sœurs, je vous le dis, je suis un premier candidat au suicide, moi, si j'étais convaincu qu'il n'y avait rien après, hein. Mais je ne peux pas croire que moi, mon espérance de vie, ça ne vaut pas plus que le cheval, le chien ou le chat, hein, ou que la fourmi, quoi. Hein. Non. Jésus-Christ a parlé de la résurrection. Il est le premier qui est revenu de la mort à la vie. Il est monté vivant au ciel et il a dit un jour, je reviendrai vous chercher et je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous allez recevoir un nouveau corps, un corps glorifié, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le péché aura été détruit, parce que le diable, l'ennemi de tous les hommes, hein, qui séduit le monde, qui leur laisse croire que c'est Dieu qui les déteste alors que c'est lui qui nous déteste, bien le diable, la Bible nous dit aussi, il va être détruit pour l'éternité. Et le monde dans lequel on vit, ça va être un autre monde, ça va être le monde de Dieu. Frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, je tiens simplement à vous rappeler une chose. Si vous avez une dent contre Dieu, à cause de différentes situations que vous vivez, je tiens à vous dire une chose, le monde dans lequel vous vivez, là, hein, c'est pas le monde que Dieu a voulu créer, c'est le monde que l'homme a voulu avoir sans Dieu. Et ça, c'est le monde du diable. La Bible est claire. Jésus a dit aux gens, à son époque, vous avez tous pour père le diable et vous imitez votre père dans vos actions. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à imiter celui qui est notre grand frère aîné, la personne de Jésus-Christ, le Sauveur merveilleux. Ouais. Et c'est pour ça que Dieu veut nous amener à lui ressembler. Pas extraordinaire, ça, hein? Magnifique. Magnifique, hein? On va arrêter là ce matin. Rendons grâce à Dieu qu'il puisse tout voir. Puisque peut-être que Satan ou d'autres vous ont peut-être dit que Dieu ne voit pas ce que vous traversez. Rappelez-vous, Jésus a dit que Satan, c'est le père du mensonge. Il est meurtrier depuis le commencement. On a un Dieu extraordinaire. Gardez vos yeux sur celui qui voit tout. tout ce que vous vivez, qui connaît tout, qui se soucie de vous. Parce que ce que Dieu veut faire de vous, c'est vraiment des dignes représentants de la personne de Jésus-Christ et que vous pouvez encourager les gens à l'extérieur parce que c'est déprimant ce qui se passe à l'extérieur. Les gens essaient d'oublier dans la boisson, dans la drogue, dans n'importe quoi. Mais après, on revient. Hein? On revient. Hein? Quand la cuite est terminée, quand la seringue a fini de faire son effet, quand le sexe, finalement, on a eu ce qu'on a voulu, on revient toujours à la case départ et on n'est pas plus heureux. Hein? On n'est pas plus heureux. Hein? Pas plus heureux. Et pourtant, en Jésus-Christ, Dieu nous donne tout pour être heureux. Amen.
Amen.
Hein, c'est ce qu'il dit. Ça va être, ça sera le thème de la conférence de vendredi. On a tout, tout en Jésus-Christ, tout. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique pour terminer.